Isère Classique, le magazine musical de RCF Isère, présenté cette semaine par Éric Rouillet du label Le Palais des Dégustateurs.
Jean-Yves Bizot, bonjour.
Bonjour Éric.
Et bienvenue pour notre deuxième entretien dans nos studios de RCF.
Merci.
Alors là, je voudrais vous poser une question sans ambiguïté, sans philosophie, sans rien aux alentours, mais vraiment au vigneron. J'ai pour habitude d'expliquer qu'un bon vin donne du plaisir et qu'un grand vin donne de l'émotion. Vous me direz que le bavardage fait partie de mes attributions, et ça, je vous l'accorde. Néanmoins, un vigneron a-t-il besoin de talent pour faire un bon vin? Et faut-il faire confiance à un vigneron qui se dit artiste?
Enfin, pour moi déjà, le métier de vigneron, c'est un métier d'artisan. Voilà. Donc j'ai réglé le problème comme ça sur le métier de vigneron en tant qu'artiste. Question qu'on pourrait retourner, c'est qu'entre artiste et artisan, la différence, elle se fait récemment. Donc un artiste, c'est aussi un artisan. Un artisan est aussi un artiste pendant très longtemps dans l'histoire de... Que ce soit la peinture ou l'architecture, Beethoven se comparait à un cordonnier. Il est artisan pour lui, il n'était pas artiste. C'est peut-être deux choses qui sont assez proches. Voilà. Mais pour moi, voilà, je me définis vraiment comme un artisan, pas comme un artiste. Je me méfierais de ce côté, de cette volonté très créative qu'on pourrait avoir dans notre métier. Alors, est-ce qu'il faut du talent pour faire du vin? Je dirais que ça serait le minimum requis. Le talent, il faut aussi se poser la question de savoir ce que c'est. Est-ce que c'est une technique? Parce que la technique, on peut l'acquérir. Hein. C'est effectivement un métier où on répète des gestes. Une fermentation, c'est que ça se conduit aussi en répétant des gestes. On peut faire des schémas. Voilà. Mais le talent, c'est peut-être aussi une projection, une envie.
Une quête.
Une quête, voilà. Et là, à ce moment-là, pour moi, ça s'avérerait nécessaire, mais est-ce qu'on ne peut pas des fois la masquer par la technique,
alors, cette quête. C'est étonnant, parce que j'ai dit je m'adressais au vigneron, et vous êtes parti sur Beethoven.
Ouais.
Vous vous rendu compte?
On a fait un petit tour.
Alors, je vous propose de retrouver, non pas Beethoven, mais Darius Milhaud, dans une petite symphonie qui est une œuvre très française, gourmande, exquise et totalement inconnue.
Thank you.
Jean-Yves Bizot, Darius Milhaud, une musique presque simplette pour les mélomanes, et pourtant je la trouve organique, et je trouve qu'elle est immédiatement en nous.
C'est la force de la simplicité. la simplicité, pour moi c'est une notion très importante. Complexifier les choses, c'est toujours facile, si on peut arriver à faire un peu ce paradoxe. Arriver à simplifier, c'est beaucoup plus compliqué. Supprimer les éléments, supprimer tout ce qu'il y a en trop, arriver à la simplicité, à l'origine, à l'essence des choses, c'est toujours une démarche très engagée, très volontaire. Et pour moi, la plus difficile, une forme d'ascèse. Et là, j'ai rien de trop.
Voilà. Oui,
c'est limpide, c'est clair, il y a du mouvement, il y a de la vie.
La véritable originalité exclut la recherche de la nouveauté. Voilà. Il ne cherche pas à inventer un langage.
Non, il cherche à dire des choses simplement. Voilà. Enfin, la volonté de créer quelque chose de forcément nouveau, pour moi, ça, au bout d'un moment, ça inhibe la création.
C'est une servitude.
C'est une servitude, c'est une contrainte.
En parlant de servitude, je vais revenir sur un sujet grave. Nous avons bu ensemble hier soir un Bonnemare 1915. La magie, la poésie, l'émotion, la grâce y étaient indéfinissables, tellement la dimension du vin était merveilleuse. Puis-je me résigner à estimer que vous-même ne pourrez jamais croiser vos propres vins dans cette phase et qu'ainsi, vous êtes condamné à des rendez-vous manqués, reconductibles à l'infini, comme un horizon qui se dérobe sous la gouvernance d'une temporalité totalement indifférente à vos préoccupations.
Enfin, je pense qu'un vigneron, à partir du moment où il a... Enfin, un vigneron bourguignon, parce que tous les vins ne sont pas forcément des vins qu'on peut garder 50 ou 60 ans, mais un vigneron qui se...
Ne vous dérobez pas.
Non, je ne vais pas me dérober. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne travaille pas pour soi. C'est-à-dire que tout ce que l'on fait... Moi, j'aurais jamais connaissance de mes vins dans 50 ans.
On est d'accord.
Voilà, tout à fait. Et c'est... Alors, ça pourrait être angoissant, mais c'est une projection. Oui. Ouais, c'est pareil, c'est du mouvement, donc on va de l'avant. Tout à l'heure, je parlais d'inconnu dans l'émission précédente. Pour moi, voilà, ça c'est un inconnu majeur. Voilà. Qu'est-ce que je fais ?
La dimension de votre travail vous échappe quelque part, dans le temps.
Totalement.
Ouais. Mais alors, il y a un exercice de solitude derrière ça.
Oui, bien sûr, de toute façon, mais on se retrouve face à nos questions. Hein. Je pense que je mourrai sans jamais savoir si j'ai fait une très très grande bouteille. Mais par contre, il faut le faire quand même. Je le fais quand même. Voilà. Ça restera une question centrale pour moi dans ma quête.
Est-ce que les questions de la veille et les réponses du jour sont reconductibles ? Ou est-ce qu'à chaque fois, il faut recommencer ? Est-ce qu'il y a la bonne question ? Est-ce qu'il y a la bonne réponse ? Ou est-ce que c'est à l'infini ? Ça ne marche pas ?
Les questions de la veille, elles ne sont plus valables parce qu'on a la réponse du jour. Donc, il faut se reposer les questions.
Elles se périment à partir du moment où vous trouvez une réponse.
Voilà. Et donc, il faut toujours être capable de repartir sur la question, mais la question, elle va la regarder forcément sous un autre angle, la question initiale. Parce qu'on a une nouvelle donnée, on a acquis une connaissance avec la connaissance du jour. Donc, la question d'hier, il faut qu'on la reconsidère.
Jean-Yves Bizot, je vous propose de retrouver un peu de musique française, un peu de fraîcheur, un peu d'espace avec Gabriel Pierné. Jean-Yves Bizot, Gabriel Pernier, cette musique possède une sensibilité, mais je crois qu'elle possède nos racines françaises. On la métabolise directement. On n'a pas besoin de traduction, de prisme, on la respire.
Alors c'est pour ça qu'elle nous paraît aussi simple, d'ailleurs. Parce qu'elle est,
elle est évidente.
Elle est évidente, tout à fait.
Elle est évidente. Alors, on parlait tout à l'heure des questions et des réponses qui se périment. Je voudrais revenir au professeur Magnard, qui m'expliquait donc différemment, et qui m'écrit donc les premiers principes, comme le point d'horizon, fuit quiconque les voudrait approcher. La poursuite est-elle cependant inutile ? Il faut inverser le mouvement et faire du précaire l'anticipation d'une réalité qui ne cessera jamais d'advenir. C'est votre pensée, ça, finalement.
Oui, c'est une pensée, c'est du mouvement, toujours pareil. C'est vraiment le... Je pense que prétendre atteindre quelque chose qui est fixé ou éternel, c'est se condamner à disparaître. Rien n'échappe aux dents affamées du temps, disait Ségalène. Et c'est vrai, quand on arrive quelque part, eh ben, l'horizon est encore un peu plus loin, donc il faut toujours bouger. Pour moi, on va revenir sur la quête, c'est cette recherche.
Et cette gouvernance de la précarité chez Pierre Magnard.
Et le précaire, c'est notre état.
Oui.
C'est notre état, c'est... On a jamais de certitude. Tout à l'heure, je parlais de l'appellation. L'appellation, elle permet quasiment d'avoir un paquebot qui navigue sur l'inconnu, c'est l'inconnu du temps, ça sera le millésime. Le paquebot, c'est pas une certitude non plus. Ça peut être précaire, et c'est probablement précaire. C'est quelque chose de fragile. Donc, pour moi, on vit dans un monde où il n'y a aucune certitude.
Où on cherche à s'assurer.
Et on cherche à s'assurer, bien sûr. Mais c'est beaucoup plus confortable. Hein. Mais l'horizon est inconnu. Ça nous fait forcément peur, parce que l'inconnu, c'est quelque chose de terrorisant. Mais c'est aussi ce qui doit nous rassurer, parce que sinon, on ne vit pas.
Alors, je vous propose d'aller vers des voies inconnues, qui ne font pas peur, par contre, en Estonie.
Läksin kodunt välja, lõin varba vastu kivi, hakkasin nutma. Tuli kuldne kutsuma, tuli hõbedane hüüdma, aga mina läksin kõige noorema venna saani. Tema viis mind kuu õue ja päeva tanumale. Kudus kuld kangas, kuld lõng läks katki, meiju hakkas nutma.
Jean-Yves Bizot est chant folklorique estonien, chant de paysan, chant de la terre. Finalement, quel que soit l'endroit du monde, dès que les voix portent la terre, il y a quelque chose qui se recentre
Mais déjà, ça se ressent parce que rien que la voix, c'est l'instrument premier, le plus simple. Pour la mélodie, pour la percussion, ce sont les mains. C'est d'une transparence, c'est essentiel.
C'est des cultures différentes, civilisations différentes. Et malgré tout, dès que le folklore s'empare de quelque chose, il met en avant les racines, on retrouve presque le même langage partout.
Finalement, on est tous confrontés au même problème quand on est paysan. C'est notre fragilité, notre précarité. On revient dessus. C'est la difficulté du labeur, c'est l'incertitude de la récolte. L'agriculture, c'est un métier injuste, puisqu'on a des sanctions qui nous tombent dessus qu'on ne mérite pas. Bon, même si on essaie de leur trouver une cause divine, mais un coup de grêle, un coup de gel, un coup de vent, et puis dans des régions aussi comme ça, comme dans toutes d'ailleurs, il y a la guerre, il y a aussi les faits humains qui peuvent survenir. Donc oui, ça traduit la précarité, une simplicité, quelque part aussi une foi, parce qu'il faut croire pour travailler la terre.
Alors par rapport à la fragilité dont vous parlez, à travers le statut social que possèdent actuellement certains vignerons, qui en feront probablement prochainement des vedettes de télé-réalité. Leur adaptation, à votre avis, a évolué en cohérence avec ce succès, afin qu'ils puissent assumer ce nouveau rôle dans la société. Pensez-vous que le vigneron est à la hauteur de sa destinée moderne? Ou pensez-vous que nous assistons au spectacle inexorable de sa destitution?
Bon, j'aime bien retourner un peu les questions. Est-ce que la destinée moderne du vigneron est à la hauteur de ce qu'il est? Aujourd'hui, le viticulteur, c'est un peu le métier phare. C'est un métier auquel beaucoup de gens se réfèrent. On devient un peu des vedettes, il faut le reconnaître. C'est une situation qui est extrêmement compliquée, qui me met très mal à l'aise. Parce qu'on ne se prépare pas à ce métier de star. On ne s'y prépare pas, c'est quelque chose qui nous arrive dessus. Est-ce qu'on peut s'y préparer? C'est compliqué. Est-ce qu'on a la hauteur? La hauteur, ça serait de résister à ça. Mais malheureusement, c'est quelque chose d'extrêmement tentant aussi, parce que c'est une gloire. Mais la gloire, c'est la lumière, mais c'est aussi l'oubli. Je pense que le risque, ça serait de disparaître en tant que personne.
C'est peut-être aussi assumer une contradiction qui n'existait pas il y a quelques dizaines d'années dans le statut du vigneron. Être à la fois encore un paysan, mais en même temps avoir un statut social dans la société qui peut-être devrait l'obliger à assumer différemment son rôle. Est-ce qu'un vigneron aujourd'hui à Vosne-Romanée peut toujours se contenter de dire « je suis vigneron » ?
Non, heureusement non. C'est-à-dire que pour moi, le vigneron, c'est une personne qui a les pieds dans la terre et la tête dans les étoiles. Voilà, donc, et c'est parce qu'il faut qu'il rêve pour faire son vin, parce qu'il y a une part de rêve, mais aussi dans la tête dans les étoiles, parce que son produit atteint, si on se réfère au niveau social, il reste paysan, donc dans l'imaginaire social, c'est quand même la base de la pyramide. Mais en même temps, ces bouteilles ou ces produits vont arriver dans le haut de la pyramide sociale. Donc il y a un paradoxe, et puis c'est presque ça devient une schizophrénie, à la limite. Effectivement, c'est compliqué.
Jean-Yves Bizot, on change de registre. Votre fascination pour l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach n'est-elle pas l'aveu que vous considérez l'inachèvement comme la véritable quête à accomplir ? Comme si la vérité s'arrêtait à mi-chemin et que le reste du parcours était une fable à concocter pour rendre viables vos illusions. Oui. J'ai une traduction de Pierre Magnard,
oui.
Si ça peut vous éclairer.
Ça peut m'éclairer, oui.
Pierre Magnard précise « Ne peut-on imaginer des certitudes mobiles et susceptibles d'être redistribuées d'une opportunité à l'autre en fonction du sens que l'on veut interpréter et de l'interlocuteur que l'on veut atteindre, surtout quand cet interlocuteur n'est autre que soi-même. »
L'art de la fugue, c'est une œuvre qui me fascine pour sa dimension, on va dire sa dimension intellectuelle, parce que c'est quand même c'est une prouesse. Sa dimension sensible aussi, parce que c'est une œuvre que je trouve extrêmement émouvante. Ce qui me fascine aussi, c'est ce travail sur finalement un thème qui est assez simple, le BACH, et qu'on va retrouver dans le corpus, mais qui est présenté sous des angles très différents. Effectivement, c'est une espèce de certitude mobile. Il y a ce fond, mais qu'on va retrouver jouer différemment, interpréter différemment, dans des situations différentes, à des rythmes différents, des pulsations différentes. Et ça, voilà, c'est peut-être la vie. Effectivement, la répétition toujours d'un geste, notre vie à tous. On fait toujours le même geste, mais c'est jamais tout à fait le même. Voilà. Dans des contextes différents, nos idées sont... Je pense qu'on en a finalement pas tant que ça, des vraies idées, mais il faut arriver à les présenter de manière différente suivant les interlocuteurs. Parce qu'il nous renvoie quelque chose qui n'est pas un interlocuteur, nous renvoie aussi une image de nous qu'on ne connaît pas forcément. Donc on est obligé un peu de se remettre en phase avec lui. C'est ça qui me fascine dans l'art de la fugue, c'est cette espèce de... Avec un thème tout simple, voilà, on fait quelque chose d'infini.
On va en écouter un extrait. Thank you. L'art de la fugue, Jean-Yves Bizot, dans une version quand même très dégraissée, très épurée, dans votre style.
Oui, c'est, enfin, j'espère, oui.
Oui, alors, on parle souvent avec le vin de légèreté ou de côté aérien, c'est pas la même chose. Là, on est dans l'aérien.
Tout à fait.
On n'est pas dans le léger.
Non, pour envisager l'art de la fugue avec un grand orchestre et des trombones et des grosses caisses, mais là, voilà, on est complètement dans le... Pas la désincarnation, parce que c'est... Il y a de la chair.
Ouais, dans une épure.
Dans une épure,
voilà, mais palpable.
Palpable, tout à fait, voilà. Ce qui est aussi, dans cette œuvre, je trouve fascinant, c'est que, pour moi, c'est une œuvre qui est complètement détimbrée. C'est-à-dire que, voilà, autant une sonate de Beethoven, on l'entend au piano. Là, on peut l'entendre... l'art de la fugue, ça peut être à l'orgue, au piano, au clavecin, au xylophone, avec des orchestres. Et c'est toujours l'art de la fugue.
Jean-Yves Bizot, nous arrivons déjà au terme de notre deuxième entretien. Je vous remercie d'être venu dans les studios de RCF. Nous allons terminer notre promenade à Vaune-Romanée avec la cathédrale engloutie de Claude Debussy qui était enregistrée à 500 mètres de votre domaine, à la Goyotte du domaine de la Romanée-Conti, avec Boris Berman, qui m'avait contacté en m'expliquant que personne ne voulait l'enregistrer. Et on a produit certainement une des plus belles interprétations de l'histoire du disque. On se quitte avec une réflexion de Pierre Magnard à votre sujet.
Ouais, allez-y.
Seriez-vous condamné à suivre un chemin auquel il ne faut pas se fier et à désassembler votre pensée pour en dégager une poétique des consonances?
Si je m'engage sur un chemin, c'est parce que il n'y a rien de sûr. Si je prends un chemin, c'est parce que j'aime bien aller dans l'inconnu.
Donc, vous êtes condamné à suivre un chemin auquel vous ne pouvez pas vous fier.
Exactement.
Alors, nous allons nous quitter avec la cathédrale engloutie. Merci Jean-Yves Bizot.